Nous ouvrons le premier livre de Samuel au chapitre 24. 1 Samuel 24. Nous lirons ce chapitre dans son entier, les 23 versets. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül, et après cela le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva, sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné, j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. » Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour tout ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses gens montèrent au lieu fort. Quelques chapitres plus loin, au début du deuxième livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 1er. Au verset 23, 24 et le début du verset 25. À partir donc du verset 23. Saül et Jonathan aimables et chéris pendant leur vie n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 9, versets 23 et 24, Luc 9, versets 23 et 24, une parole du Seigneur Jésus, Luc 9, 23, 24, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Puis deux derniers versets dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2. Versets 14 et 15, Colossiens 2, 14 et 15, il, c'est-à-dire le Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamné, l'acte qui établit notre culpabilité, notre condamnation, et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous nous sommes donc dans le cadre de la guerre des deux trônes, poser un certain nombre de questions, dont une question essentielle, qui se cache derrière Saül? Et nous avons bien entendu répondu, d'abord Satan, et puis nous sommes allés plus loin en réalisant que Dieu était à l'origine première de toute cette situation de difficulté de David par Saül. Et nous avions conclu en soulignant que c'est avec la permission de Dieu, sous son contrôle constant, que ce mauvais esprit s'est dressé par Saül contre David pour sa formation en vue du règne. Il nous faut maintenant actualiser tout cela, enfoncer le clou si c'était nécessaire, et nous dirons tout d'abord que Dieu s'est donc servi d'un lunatique lié par un esprit malin, impulsif, terriblement versatile, un homme de plus en plus rongé d'orgueil, dévoré par la jalousie, un mélancolique coléreux, qui présentait les symptômes évidents d'une psychose maniaque dépressive, alors là nous sommes au cœur de ce langage que je vous annonçais hier, bien il s'est servi de ce personnage pour former le plus grand roi d'Israël et développer en lui le caractère du fils de David. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, cela veut dire notamment que Dieu se sert d'un patron, comme on dit simplement, au seul caractère, pour nous former. Dans 1 Pierre 2,18, une épître qui est une illustration néo-testamentaire de la formation de David et du genre de régime auquel Dieu, dans sa grâce, soumet ses enfants. Dans 1 Pierre 2,18, il nous est dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, qui ont littéralement, dit le texte grec, une scoliose du caractère. Ils sont tordus, une scoliose du caractère. Oh, je ne le dis pas avec légèreté, ayant eu de graves problèmes de santé, à l'aurore de ma vie adulte, j'ai dû pour un temps cesser mes études jusqu'à ce que je sois suffisamment rétabli pour les reprendre. Et j'ai donc travaillé comme secrétaire dans la mairie d'une ville de 10 000 habitants. Et mon grand patron dans cette mairie, c'était le maire. Et ce brave maire souffrait véritablement d'une scoliose du caractère. Et il était un moment que tous les employés de cette mairie redoutaient par-dessus tout. Ça pouvait donner quelquefois lieu à des coliques, tant le stress était là, comme on dirait aujourd'hui. Lorsque le vendredi soir, nous envisagions la matinée du samedi, puisqu'à la fin de cette matinée, il y avait l'heure du bilan et de la préparation de la semaine suivante dans le bureau du maire, sous son autorité, et que, assez fréquemment, il y avait des éclats de voix, des situations quelque peu difficiles à vivre. J'étais, à l'époque, déjà disciple de Jésus-Christ, mais c'était véritablement des moments très difficiles à vivre. Et pourtant, Dieu se sert d'un patron au sale caractère, d'un voisin de chambre impossible, d'un croyant rétrograde et charnel. Et quelle est l'Église qui n'a pas en son sein des frères et des sœurs que nous pouvons être, hélas, parfois nous-mêmes, qui sont source de douleur pour le reste de la famille et dont on souhaiterait, disons-le honnêtement, par moments, qu'ils soient partout ailleurs sauf dans notre Église. Et pourtant, Dieu se sert d'un croyant rétrograde et charnel, de frères et sœurs difficiles à vivre. Et aussi, ne voyons pas uniquement des analogies de personnes, puisque Saül est une personne, mais simplement des analogies de situations. Des situations difficiles dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans tant et tant d'autres domaines. font partie de ces instruments de Dieu pour nous former, pour traiter ce que nous avons appelé l'hippopotame, moi, pour nous faire perdre nos illusions, notre confiance en soi, dans ses excès. Dans ses excès, il est un minimum de confiance en soi qui est nécessaire à la vie. Et la Bible ne s'inscrit absolument pas contre ce que j'affirme. Il est toujours douloureux de vivre une crise d'identité par rapport à soi-même et d'être un être perpétuellement pétrifié parce que ce sous-estimant en permanence, se croyant incapable de tout, parfois même d'ailleurs à cause de la mauvaise compréhension de cette question de la foi, de la confiance. Je tiens à le préciser, à cause des risques de dérapage quand on évoque la confiance en soi. Traiter l'hippopotame, moi, afin que notre règne disparaisse et que son règne vienne dans nos vies. J'ai été crucifié avec Christ. Et le temps utilisé laisse entendre que l'effet de cette crucifixion, fait historique, en même temps que juridique, légal, qui s'est produit il y a bientôt 2000 ans, se prolonge dans mon quotidien aujourd'hui. J'ai été et je suis, de jour en jour et d'instant en instant, crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité juridique liée à quelque chose de terrible qui s'est passé sur la croix, mais qui doit ensuite s'incarner dans mon vivant personnel, de tous les jours. Et c'est là que ça se corse, dans nos vies. Je pense à un prédicateur bien connu qui visitait le lieu du tombeau, hors des murailles actuelles de Jérusalem, l'endroit où Jésus a probablement été crucifié. Il était accompagné d'un guide arabe à qui il dit à un moment donné qu'il voulait se rendre au sommet de la colline, à ce lieu envisagé comme ce fameux lieu du crâne où a eu lieu la crucifixion de Jésus. Et le guide était choqué. Et il essayait de le décourager de monter au sommet. Mais quand il vit que ce prédicateur était totalement déterminé à monter, alors finalement, il décida quand même de monter avec lui. Et une fois sur la crête, ce serviteur ôta son chapeau, courba la tête, et il était profondément ému, bouleversé. Et cela intrigua à un tel point le guide que de manière très abrupte, il demanda à cet homme de Dieu, « Mais monsieur, êtes-vous déjà venu ici ?» Et ce prédicateur de répondre très simplement, « Oui monsieur, je suis venu ici il y a 2000 ans. J'ai été crucifié avec Christ. » Vous êtes mort, nécrosé, faites mourir. Un fait que nous devons reconnaître, que nous devons saisir par la main du cœur, dans une confiance dans les déclarations de notre Dieu, mais faites mourir. Vivez dans votre quotidien cette mort. Et vous savez combien le cadavre est tenté de sortir de son cercueil. Je me souviens, il y a une bonne dizaine d'années, avoir traité toute une partie de l'Épître aux Romains dans un camp de formation pour étudiants et fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Et ça tombait très bien parce que ce camp se situait dans l'enceinte d'une station missionnaire au centre de la Côte d'Ivoire. Il y avait là la chapelle qui abritait une communauté évangélique très vivante. Et pour quelque peu subvenir à leurs besoins, les amis de cette communauté s'étaient lancés dans un commerce bien utile, mais quelque peu macabre, puisqu'ils fabriquaient des cercueils. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait ici et là, on pouvait voir dans certains coins des locaux, des cercueils qui étaient prêts à l'emploi. Et pour bien illustrer ce que nous partageons ce matin, j'ai demandé pour une des études à 3 ou 4 de ses amis participants d'aller chercher un de ces cercueils. Et pendant un moment de récréation où tout le monde était dispersé avant de reprendre le cours, de venir déposer ça rapidement là, bien au milieu, devant, près du pupitre, pour pouvoir ensuite illustrer. Je ne suis pas allé, j'avais bien envie de le faire, mais j'avais quelques craintes, je ne suis pas allé jusqu'à demander à un de ses amis de se glisser dans le cercueil pour faire bouger le couvercle à un moment donné, parce que je savais que dans le cadre de la culture africaine de l'endroit, ça aurait pu vraiment provoquer certains infarctus difficiles à guérir. Et d'ailleurs, il aurait fallu voir l'effet, le tableau des amis rentrant et puis découvrant ce cercueil juste là pour la suite de l'étude. Mais croyez-moi, c'est une image qui a marqué. Ce couvercle qui bouge, ce vieil homme qui a bien envie de gigoter. Quelqu'un écrit très justement, il ne peut y avoir de croissance spirituelle qu'à travers la mort à soi-même. Chaque pas sur le chemin du progrès spirituel sera marqué par les empreintes sanglantes de l'amour-propre blessé. Vous avez sans doute entendu parler de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur qu'on peut vraiment appeler lui un résistant dans l'Allemagne nazie, ce qui lui a valu d'être finalement exécuté à la fin de la guerre. Et Dietrich Bonhoeffer a dit ceci: quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs. Viens et meurs. » Et ça passe mal. Ça ne fait pas partie, je l'ai dit, des grands messages d'aujourd'hui au sein du peuple de Dieu. Et se trouve, et là je cite mon ami Tozer, il se trouve que le moi, ce moi propre, le moi est l'une des plantes les plus résistantes qui croissent dans le jardin de la vie. En fait, aucun moyen humain ne peut la détruire. Au moment même où nous sommes certains qu'elle est morte, elle repousse quelque part ailleurs, plus robuste que jamais, prête à troubler notre paix et à empoisonner le fruit de notre vie. Et tout à fait dans la même veine, c'est notre ami André Adoul qui, dans son remarquable livre « Sa présence », écrira ceci: « Le moi qu'on s'emploie à éliminer rebondit toujours comme un bouchon lâché dans l'eau. Plus on veut comprimer le moi, et plus il se montre. Mettez-le au pilori, le voilà sur le trône. Il est si tortueux qu'il réussit même à tirer orgueil des assauts qu'il subit lorsqu'on tente de le déloger. » Dieu nous demande d'être véritablement préoccupés de son Fils Jésus-Christ. Non pas de nous concentrer sur notre moi pour le faire mourir, mais d'être préoccupés du Fils. Un peu, j'utilise souvent cette illustration comme dans le mariage. La meilleure manière de se détacher de ses habitudes quasi chromosomiques de la vie de célibat, c'est d'être concentré sur le conjoint, sur l'autre. C'est notre amour pour l'autre. Et notre amour concret, avec tout ce qu'il peut signifier, qui va nous détacher de ces habitudes de notre hippopotame moi célibataire d'autrefois. Je ne porte aucun jugement sur les amis célibataires ici, bien loin de là. Mais nous sommes tous de la même pâte. Et je fus célibataire avant d'être marié. Comprenons-nous bien. Par contre, Dieu se sert des autres pour que nous vivions notre crucifixion. Comme nous ne pouvons pas nous crucifier nous-mêmes, il appartient aux autres de le faire à notre place. Nous avons à louer Dieu, et je le dis en tremblant, parce que ce ne sont pas des situations que j'aime. Mais nous avons à louer Dieu, apprendre à louer Dieu, comme le disait un cher frère qui habite au Québec, pour tous les frères marteaux et pour toutes les sœurs clous qu'il met sur notre chemin. Si vous préférez les sœurs marteaux et les frères clous, libre à vous. Et c'est vrai, nous avons à apprendre à louer le Seigneur pour ces situations. Il ne s'agit pas maintenant de renverser la chose et de dire « Seigneur, je te bénis de ce que je sois un frère marteau pour crucifier mon frère. Hein » Parce que Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours, dont celui-ci. Il justifie, embellit, sublime la perversité de ses actions et de ses attitudes et de ses pensées en disant « Mais Seigneur, c'est merveilleux, tu m'utilises de cette manière pour l'autre. » Vous savez que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, a su répondre avec une forte autorité et à ceux qui disaient « Bien, péchons pour que la grâce abonde. Si la grâce abonde dans la vie de mon frère par mon péché, allons-y, gaillardement. » Comprenons bien la chose, il y a bien des pièges lorsqu'on évoque ce message. Cet homme de Dieu, Steinberger, dans son livre « Petite lumière » que je vous recommande aussi, a écrit ceci « Ne regarde pas comme un fardeau ceux qui exercent ta patience. Regarde-les plutôt comme une pierre à aiguiser, destinée à te polir, ou comme un marteau dont le maître a besoin pour donner au fer la forme voulue. Va à la forge et demande à celui qui frappe sur l'enclume comment il sait où il doit frapper avec le gros marteau. Et il te répondra, toujours à l'endroit où vient d'abord de frapper le petit marteau du maître forgeron. » Comment Dieu a-t-il fait dans la vie de Jacob ? Jacob, un homme qui était l'exemple biblique des hommes tordus, docteur en mathématiques dans le sens du calcul mental, calculateur fini, fortement tenté par les tromperies les plus sophistiquées, mais assoiffé de Dieu. Et là encore, c'est ce que Dieu aimait chez cet homme, cette soif de Dieu. Et Dieu a travailler à le sortir de cette gangue de mensonges, à faire éclater, à briser, à faire sauter cette carapace de tromperies, de calculs et de mensonges, pour qu'apparaisse sa propre beauté. Il y a 1000 ans, 20 ans, et à l'aube de cette vingtaine d'années très difficiles, eh bien Dieu a envoyé Jacob jusque dans une chambre où il y avait un grand miroir. Et chaque heure du jour et presque de la nuit, Jacob était obligé de se regarder dans ce miroir. Et plus il se regardait dans ce miroir, plus il se disait, mais je suis quand même un sale type. Ce miroir portait un nom. C'était son oncle Laban. Si Jacob avait un doctorat en matière de calcul mental, Laban en avait plusieurs. Il était un maître. Et il s'est fait rouler. Et vous le savez qu'il le dit. Jour et nuit. Et il s'est fait rouler dans les domaines les plus sensibles de la vie. Le domaine de l'amour, le domaine du mariage. Comme il avait roulé dans le domaine le plus sensible de la vie, sur les conseils de Rebecca, trompant son propre père, trompant son frère. Et chaque fois que Jacob voyait Laban dans ses attitudes, il y avait comme des clous qui s'enfonçaient un peu plus profondément dans son propre cœur. Et Dieu travaillait en profondeur et lui disait, tu vois Jacob, tu souffres en ce moment. Eh bien, prends la mesure des souffrances que tu as infligées avant que je te place dans cette situation. Et vous savez comment, après des dernières tentatives de calcul très élaborées, alors que Ésaü et sa troupe arrivaient ventre à terre, animés de sentiments plus qu'hostiles, vous savez comment Jacob finalement était dans l'impasse la plus absolue qui soit, là au guet de Jabok, dans la solitude d'une nuit extrêmement difficile, après avoir mis à couvert tous les siens. Dieu a décidé de lui porter le coup à la fois fatal et salutaire qui ferait de lui un vainqueur. Parce que vaincu par Dieu, et le texte est beau, qui le voit béni de Dieu, repartir alors que le soleil se levait sur ce guet de Jabok, repartir béni de Dieu, boitant, mais animé de nouveaux sentiments qui allaient s'approfondir, davantage que jamais centré sur la grâce. Toute la suite du texte respire ici et là la grâce dans le langage de cet homme qui va continuer à apprendre et que Dieu utilisera au bout du pèlerinage, alors qu'il dira que les jours de sa vie ont été peu nombreux, et pourtant qui sait s'il a vécu longtemps, mais par rapport au père c'était peu. Et il ajoutera, les jours de ma vie ont été mauvais. Quelle lucidité. Mais en même temps, il sera aussi celui qui bénira le Pharaon. Et là, il bénit Pharaon. Et les Écritures disent, surtout dans le cadre d'un certain nombre de textes de l'Ancienne Alliance, que sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et donc cet homme qui reconnaissait les échecs et le caractère tortueux de bien des aspects de sa vie passée, était là dans une position de supériorité par rapport à Pharaon lorsqu'il le bénissait par un merveilleux effet de la grâce de Dieu. Parce qu'à la mode de l'Ancienne Alliance, la croix était passée sur sa vie. Quel message que cette thérapeutique de Dieu, crucifiant Jacob pour faire de lui Israël, ce terme, ce mot qui représente tant pour nous dans son contenu et dans son histoire. Alors mes bien-aimés, là où nous ne voyons que Satan, là où nous sommes tentés de ne voir que des situations difficiles à fuir coûte que coûte, n'y aurait-il pas la main de Dieu à l'œuvre? J'aimerais aussitôt ajouter ceci, toujours par souci d'équilibre. J'aimerais ajouter que nous n'avons pas à rechercher ces situations. Dieu ne nous demande pas de courir après les Saül comme certains enfants courent après les chiens et les excitent jusqu'au moment où le chien meurt. Il existe un héroïsme soi-disant spirituel très mal placé qui contient, oui, une part de masochisme spirituel, une forme d'amour de la souffrance, mais quelque chose de malsain et qui est lié généralement à notre orgueil, à notre méconnaissance de nous-mêmes. Heureusement que Dieu n'exauce pas certaines de nos prières à l'heure de certains de nos délires spirituels. Vous lirez dans ces chapitres 18 à 30 de 1 Samuel et vous verrez là aussi tout l'apprentissage de l'équilibre dans la formation de David. À savoir que David n'a pas été celui qui tirait le diable par la queue. Et même dans ces chapitres 24 et 26, où Dieu va autoriser, ou va placer même, au chapitre 24, David dans une situation d'immédiate proximité de celui qui le combat, ou au chapitre 26, dans un processus complémentaire de croissance dans la formation de l'homme spirituel, où alors Dieu va autoriser David à prendre une initiative dans ce domaine. Que de précautions! Que de précautions! David ne va pas chercher à être un héros. Il ne va pas chercher noise en quelque sorte à Saül. Mais en même temps, il se refuse, sur la base de ce qu'il connaît des Écritures, à porter la main sur loin de l'Éternel. Et c'est toujours dans nos vies la double tentation. Ou bien d'essayer de supprimer charnellement nos situations difficiles, de les évacuer directement parce que nous disons d'emblée « elles ne sont pas dans le plan de Dieu puisqu'elles me dérangent », etc. Ou bien alors, à d'autres moments, nous sommes tentés, hélas, de nous placer dans des situations difficiles, d'aller trop loin au lieu de laisser ces choses à Dieu. Nous nous exposons inutilement. Nous pouvons même nous conduire d'une manière qui finit par tenter Dieu, dans le langage humain, par placer Dieu dans une situation difficile, dans ses rapports avec nous. Nous risquons parfois de nous exposer inutilement. Et cela, il importe de le dire. David a eu une belle attitude, a appris à vivre l'équilibre dans ce domaine. C'est Dieu qui organise nos circonstances. Rien ne nous interdit de dire au Seigneur dans nos situations difficiles, « Oh Seigneur, c'est dur à vivre. Je n'ai rien à te cacher. Et si tu veux, Seigneur, change cette situation. Tu vois cette hostilité déclarée qui dure depuis une année, deux années, trois années. Seigneur, tu sais, c'est difficile. » Et je veux te prier parce que je sais que tu as la capacité de modifier cette situation, d'écarter cette difficulté. Mais Dieu est libre de répondre dans le sens où il veut. Mais je le redis, là où nous ne voyons que Satan et des situations difficiles à fuir coûte que coûte, n'y aurait-il pas la main de Dieu à l'œuvre? Et nous pourrions prendre ici mais une multitude d'exemples dans l'histoire de l'Église. Au British Museum, à Londres, se trouve une carte très intéressante. Il s'agit d'une vieille carte marine qui a été dessinée en 1525 et qui représente le littoral de l'Amérique du Nord et ses environs. Et le cartographe a laissé des notes fascinantes sur des régions de la carte qui représentaient des endroits encore inexplorés. Et on peut lire sur cette carte, à un endroit, il y a ici des géants. À un autre endroit, il y a ici des scorpions brûlants. En un troisième endroit, il y a ici des dragons. Et il se trouve que cette carte tomba un jour entre les mains d'un célèbre explorateur britannique du début du XIXe siècle. Et cet explorateur de rayer ces inscriptions effrayantes et d'écrire ces mots sur toute la largeur de la carte. Dieu est ici. Dieu est ici. Et combien cela peut nous aider dans nos situations. Et croyez-moi, je ne parle pas là de théorie, je pense à des situations parfois bien difficiles vécues dans ma propre vie. J'ai sous les yeux l'exemple d'un incident grave dans la vie de ce père des missions modernes, William Carey, ce cordonnier qui, tout en ressemelant ses chaussures, priait jour après jour et d'heure en heure en regardant cette carte qui le faisait rêver en même temps qu'il avait lui-même confectionnée et qui brûlait d'aller annoncer l'évangile plus loin. Et c'était un incompris, que de problèmes il n'a pas connu. Et puis finalement, il est arrivé en Inde et pendant 7 longues années, dans son travail d'évangélisation, rendu en plus très difficile par toutes sortes d'hostilités, il n'a pas vu une seule personne se tourner vers Jésus-Christ. Puis enfin, il a eu un premier converti, puis il a pu faire des travaux extraordinaires dans le domaine linguistique en matière de dictionnaire, etc., traduction de la Bible. Et puis en 1812, un incendie terrible anéantit de longues années de labeur et de sacrifice. Tout le long travail de traduction de Carré et de ses collaborateurs s'évanouit en un clin d'œil. Et là, je lis simplement, j'énumère. Une quantité énorme de papier destiné à l'impression fut détruite. Les caractères tamils et chinois récemment fondus furent complètement anéantis. Des parties importantes de manuscrits, des grammaires, des dictionnaires minutieusement compilés furent consumés par le feu. Et Carré d'écrire, rien, excepté les presses d'imprimerie, n'a pu être sauvé. C'est un coup terrible pour nous, car nous ne pourrons pas imprimer les Saintes Écritures pendant fort longtemps. Il nous faudra plus d'un an de travail acharné pour nous retourner, et cela sans parler du dommage matériel et de la perte des manuscrits, etc., qui seront difficilement réparables. Ces manuscrits, comprenez, des portions de presque toutes les versions indiennes des Écritures. Tout le Nouveau Testament dans le dialecte de Kanara, 2 gros volumes contenant l'Ancien Testament en sanskrit, de nombreuses pages du dictionnaire bengali, toute la grammaire en telugu et en grande partie celle du punjab, ainsi que la totalité du dictionnaire sanskrit, l'œuvre maîtresse de Carré dans le domaine linguistique. Vous rendez compte? Et cependant, William Carré, d'affirmer sa foi de cette manière, Dieu veut sans doute faire sortir du bien de ce malheur et susciter davantage d'intérêt en faveur de notre travail. Et alors que les cendres étaient encore chaudes, un de ses collègues écrivait que cette calamité était une nouvelle page tournée par la Providence avec un grand P, Un exercice de foi en Dieu dont la parole aussi solide que les piliers du ciel a décrété que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il ajoutait, soyons par conséquent fermes dans le Seigneur, il ne reniera jamais l'œuvre de ses propres mains. Et dans la suite du livre, l'auteur d'expliquer comment effectivement cette situation à vue humaine absolument catastrophique dans la stratégie missionnaire de la conquête des Indes a glorifié Dieu de manière absolument extraordinaire parce que cette catastrophe a débouché les chrétiens britanniques qui se sont intéressés alors d'une manière toute nouvelle à l'œuvre de Dieu en Inde et qui se sont mis réellement et très sérieusement à la soutenir comme jamais auparavant. Cette fiche dont je vous ai lu quelques extraits figurait dans ma Bible, je l'avais sélectionnée lors d'un voyage il y a 3 ou 4 ans au Québec, où j'avais été invité à animer une conférence dans une école biblique à Sherbrooke. Et j'avais donc choisi un thème à développer au cours d'une matinée avec les étudiants. Et le matin, quand je me suis levé et que je me suis mis en route pour donner cette conférence, cette fiche figurait dans mon programme. Et j'ai appris juste avant de démarrer cette conférence que la librairie biblique de l'association qui m'avait invité et dont le directeur et gérant était un des principaux professeurs de l'école venait d'être incendiée accidentellement. Il y avait là aussi une masse de choses valant très cher, y compris au niveau matériel informatique, etc., qui était passé par le feu. Et j'ai béni Dieu de ce que, sans savoir, puisque l'incendie criminel avait eu lieu pendant la nuit, Dieu avait dirigé pour que j'aie sous la main, sans le savoir, cette illustration de l'incendie en Inde. Et cela a été une occasion de grand encouragement pour nos amis dans l'église de Jésus-Christ à Sherbrooke. Nous pourrions très brièvement prendre quelques extraits de l'histoire de Joseph pour aller dans le même sens. Vous savez que c'est l'enseignement que reçoivent les enfants durant ces 10 jours et ils se régalent dans ce domaine et je crois même qu'ils, sans trahir quoi que ce soit, qu'ils vont nous régaler à ce sujet demain soir dans ce qu'ils vont nous présenter. Et il est intéressant de voir le regard de Joseph sur 12 années tellement pénibles. Là encore, une analogie par rapport à l'histoire de David. Ces années fortes, ces années capitales, cruciales, stratégiques dans la vie de Joseph entre 18 et 30 ans, de quoi ont-elles été faites? De situations tellement injustes. Que d'injustice révoltante pour ce jeune homme devenant homme adulte, allant vers le zénith de ses capacités, de ses forces humaines à l'âge de 30 ans. Jeté au fond d'une citerne, livré de cette manière à la mort, sorti de la citerne pour être vendu comme esclave à cette caravane qui passait par là pour une somme dérisoire, se retrouvant en Égypte, calomnié de la manière la plus odieuse qui soit, dans un domaine qui lui était certainement un des plus précieux. Y a-t-il quelque chose de pire que d'être calomnié dans ce domaine de la sexualité? Et se retrouvant à cause de cela au fond d'une prison. Et puis finalement, oublié même, dans cette prison pendant 2 ans, alors qu'il s'était recommandé auprès de l'Échanson, souviens-toi de moi, lorsque tu seras devant Pharaon, car je n'ai rien fait pour être ici.
et les chansons l'oublia, dit le texte. Courte phrase, mais combien lourde de sens. Eh bien, quand on voit au chapitre 45 l'attitude de Joseph, Joseph qui a 38-39 ans, on est loin des 18 ans, il est tout juste à l'aube de la quarantaine, et au début du chapitre 45 au verset 1er, il ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Mes amis, combien il est difficile aux hommes de pleurer. Il nous est beaucoup plus facile d'être arrogant et de nous mettre en colère. Mais Joseph est un homme qui a appris à pleurer. Vous savez qu'il est question dans Genèse 42 à 50 de 7 passages dans lesquels Joseph pleure. 7 chiffres de plénitude. Un homme que la souffrance avait rendu malléable, argile malléable entre les mains du potier. Et pourtant, homme au même moment, apparemment de manière paradoxale, mais pas dans la mentalité de Dieu, homme animé d'une grande sévérité, apparemment implacable avec ses frères qu'il reconnaissait, pleurant dans le secret, mais désirant appliquer avec une fermeté qui déchirait son propre cœur, la discipline de Dieu, pour que la conscience, usée par le temps, se réveille au travers d'un traitement fait à la fois de coups de la main gauche et de caresses de la main droite. Douche écossaise, tantôt la grâce, tantôt la sanction. Et là, Joseph se montre un homme de Dieu, jeune, mais qui a beaucoup appris dans cette douzaine d'années si difficiles. Il sait exercer, là où il le faut, une discipline mesurée, jusqu'à ce que quelque chose remue au fond du cœur de ses frères. Et qu'il soit finalement amené à plaider coupable. Et vous remarquez, au moment où il se révèle, au verset 4, « Approchez-vous de moi », ils s'approchèrent, il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Et il ajoute, « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, mes amis. » C'est encore une erreur de copiste à tous les coups, hein? C'est ça le caractère révolutionnaire des Écritures. C'est ça ce qui accroche notre cœur. Ces aboutissements, n'est-ce pas? Ces faits saillants à un moment donné, ces paroles qui vous crèvent le cœur, hein? C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Alors on dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Comment Joseph pouvait-il dire cela? Avec l'intensité des douleurs, les injustices flagrantes, où Dieu se cache-t-il derrière cela? Et comme nous l'avons vu hier, parce que Dieu est un bon pédagogue, parce qu'il veut que nous comprenions bien ces leçons tellement difficiles à comprendre, parce qu'il veut que nous interprétions, que nous apprenions à bien interpréter l'événement, eh bien Dieu se répète. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, verset 6, pendant 5 années encore il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant. Vous voyez, la répétition est là. Mon ami, si tu es troublé, si tu crois avoir mal lu, mal compris, je me répète. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et alors, 3e fois, voyez, là vous avez à nouveau le style hébreu. Dans la langue, cette tendance au superlatif le plus absolu quand un message essentiel doit passer, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. 3 fois dans le même discours, la même vérité, on n'a pas peur de se répéter. tant pis pour le style. Il faut que le message passe. C'est lui qui m'a envoyé, il m'a établi père, etc., etc. Et puis, plus tard encore, et c'est la conclusion de Genèse, au chapitre 50, quelle belle conclusion dans ces versets 15 et suivants où il y a une sorte de vent de panique qui s'empare des frères de Joseph, se demandant si le père n'a pas un peu servi de bouclier de son vivant. Que va-t-il advenir maintenant qu'il est décédé? Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Mes amis, combien le cœur de l'homme peut être tortueux. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire: nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola. Il les consola, lui, en parlant à leur cœur. Et au moment où cet homme de Dieu et cet homme d'État éminent parle à ses frères, il est âgé d'environ 56 ans. Les promesses qu'il reçut de Dieu dans son adolescence datent donc d'une quarantaine d'années en arrière. Mes amis, Dieu n'a pas la même vision du temps que nous. Nous voulons que les choses aillent si vite. Dieu nous a donné sa parole pour que nous apprenions à vivre avec la mesure du temps de Dieu. Alors bien sûr, il y a dans le chapitre précédent, Genèse 49, le secret. Il faut parler de secret, de cette beauté de caractère de Joseph. Ce sont les versets 22 et suivants qui constituent la bénédiction de Dieu par les mains de Jacob sur Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille de l'adversité, des difficultés. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Ce n'est pas son œuvre, hein. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Intimité avec Dieu. Apprendre à plonger nos racines en profondeur dans le sol de Dieu. S'agripper aux rochers comme ces arbres dont nous savons qu'ils sont capables de se frayer un chemin par leurs racines dans le rocher, parfois apparemment le plus dur, tout simplement parce que leurs racines secrètent une partie de leur propre vie pour désagréger la roche et se frayer le chemin qui parviendra là, jusqu'à la poche d'eau, jusqu'à l'endroit où l'arbre pourra se désaltérer et se nourrir. L'arbre qui tient dans le rocher, c'est l'arbre qui perd sa vie d'abord dans le rocher, qui donne une partie de sa substance. Ça, c'était Joseph. perdant en quelque sorte sa vie dans ses souffrances d'une douzaine d'années, mais pour vivre de la vie même de Dieu et devenir sauveur avec un petit F du peuple d'Israël, mais surtout un type particulièrement beau du sauveur avec un grand S de tous ceux qui se tournent vers lui, notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais simplement, et je termine là, ce matin, prendre ce petit texte de cet homme de Dieu, fondateur de l'Alliance chrétienne missionnaire internationale, Simpson, qui dans ce beau livre, Une vie chrétienne enrichie, écrit ceci à un moment donné. Être plus que vainqueur signifie aussi que la victoire que nous remporterons sera telle que le feu du combat nous sera bénéfique et contribuera à notre propre cause et à celle de notre maître. Il est possible, dans un certain sens, de faire de nos ennemis des prisonniers et de les amener à combattre dans nos rangs, ou du moins de leur faire exécuter les gros travaux du camp. De la même façon, il est possible de retirer tant de bonnes choses des attaques de Satan qu'il peut en fait, bien malgré lui, devenir notre allié. Ensuite, à son regret éternel, il découvrira qu'il nous a bel et bien rendu de réels services. Nous arrêtons là ce matin. Demain matin, dans notre dernière étude, nous prendrons un court exemple du Nouveau Testament, par souci de prouver l'unité des Écritures sur cette question. Nous en tirerons deux mots de conclusion, et puis nous ajouterons un dernier complément nécessaire pour que nous n'ayons pas le sentiment que dans la formation de l'homme spirituel, il n'y a que des Saül sur notre route. Dieu est un Dieu de compassion. Il sait aussi heureusement donner d'autres choses qui sont bienfaisantes, qui sont délicieuses. Mais ça, c'est pour demain matin. Nous voulons prier simplement, librement, et vraiment, je vous encourage à vous exprimer simplement aussi par peut-être une courte phrase, toute simple, mais qui soit votre réponse personnelle à tout ce que Dieu a pu dire à votre cœur par le Saint-Esprit, par sa parole ce matin, je terminerai.